L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Aujourd'hui, on reste en ligne, mais vigilant. Nous sommes certes très connectés, c'est comme une deuxième vie pour nous. On y travaille, on y achève, on y achète, on s'y cultive, on s'y distrait. Comme dans tout monde parallèle, il y a des malfrats, des abuseurs, des arnaqueurs, bref, des voleurs. Donc, une association de défense des consommateurs et des citoyens comme la CLCV ne pouvait échapper à la question et nous y voilà donc. On avait abordé la dernière émission, le monde toujours actuel du téléphone et des abus de démarchage. Cette fois, c'est sur Internet, c'est encore plus florissant. Et encore, on ne va pas se pencher sur les cyberattaques dont sont victimes les entreprises, les institutions et autres organismes. On va juste examiner le cas de Madame et Monsieur Tout le Monde. Nous sommes donc en compagnie de la juriste de la CLCV que vous connaissez bien, Valérie Bouch, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer tout simplement par faire un panel un peu de tout ce dont on peut être victime sur Internet comme type d'arnaque, on va dire. Essayer, voilà.
Alors, moi, en fait, on va voir un petit peu ce qu'on reçoit en permanence. Évidemment, les gens nous parlent, c'est moins des dossiers que l'on traite, mais on va parler des spams. Hein, je pense que tout le monde est un petit peu sensibilisé à ça. Alors, un spam, c'est quoi? C'est un SMS, un MMS, un appel téléphonique. Alors, sur le principe, c'est une pratique commerciale, mais ça peut aussi avoir pour but, malveillance, de vous faire rappeler un numéro de téléphone qui n'a pas eu un coup de téléphone en disant, rappelez-moi tel numéro, puis on rappelle et c'est un numéro surtaxé. Un SMS, pareil, c'est des choses comme ça. Et puis on s'inquiète toujours, donc on appelle par sécurité et on se retrouve sur sa facture de téléphone. Après, tiens, on m'a facturé cette somme-là. Ouais. Donc voilà, on a ce genre de choses. Ça, c'est vrai que les gens ne viennent pas nous voir pour traiter ce type de litige, mais en fait, ça nous remonte et je pense qu'on est tout à chacun touché par ça. Après, je dirais que ce qu'on va recevoir le plus en permanence, malheureusement, ça va être la fraude bancaire, fraude à la carte bancaire, où les gens viennent nous voir en permanence et nous disent on a réussi à faire un prélèvement sur mon compte, on a réussi à faire un virement de mon compte sur un autre compte, voilà, on a réussi à accéder à mon espace client. Voilà, ça c'est compliqué, et puis ça peut porter sur des sommes qui sont non négligeables. J'ai vu quelqu'un dernièrement, c'était 8000 euros quand même. On voit bien que c'est quand même des sommes qui peuvent être très importantes et qui peuvent mettre des gens en situation compliquée. Sinon, c'est le hameçonnage ou ce qu'on appelle phishing. Alors, c'est quoi? C'est une technique visant à duper, tout à chacun, en se faisant passer pour, un tiers de confiance. On va dire les exemples, votre banque, la CPAM, la CAF, un opérateur de téléphonie. Et le but est d'essayer de récupérer soit vos données personnelles, soit en fait vos coordonnées bancaires.
Voilà, là on reçoit un mail plutôt en général. Quoi.
C'est ça, ce sont des mails là, la plupart du temps. De fait, ou quand vous allez ouvrir, il y a un mail, vous connaissez. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Les personnes, vous recevez un mail d'une personne que vous connaissez, j'ai besoin d'aide, rappelle-moi. Et vous allez cliquer et vous allez, un virus sur votre ordinateur. On va récupérer toutes vos données personnelles et raison pour laquelle toutes les personnes que vous connaissez dans vos répertoires reçoivent ce mail et ainsi de suite. Et voilà. Et tout ça, c'est pour récupérer vos données personnelles. Et des fois, malheureusement, aussi vos coordonnées bancaires, parce que ça peut vous inciter, quand c'est un tiers en qui vous avez confiance, votre banque par exemple, à donner des codes personnels, des codes d'accès à votre compte bancaire ou autre. Et donc, ça peut avoir des conséquences qui sont non négligeables. Voilà à peu près le type de litige qui peuvent toucher les consommateurs que l'on reçoit en permanence.
Oui, parce qu'après, ça peut être aussi des vols de données, alors pas bancaires, mais la carte vitale, par exemple. Enfin, il y a des gens qui se sont fait avoir.
Il y a des informations par rapport à ça. Oui. Est-ce que ça sert à quoi? Là, on parlait, comme la dernière fois de la dernière émission, de démarchage. Eh bien, souvent aussi, ce sont des données personnelles qui sont revendues à des sociétés et qui en profitent pour faire du démarchage, qui vont essayer de vous cibler, certains pour vendre quelque chose tout à fait normalement et d'autres à des fins malveillantes.
Quelqu'un pourrait utiliser notre compte de sécu pour faire quelque chose aussi, non? prénom éventuellement, enfin,
c'est plus les données personnelles, de savoir effectivement cette personne a été malade, on va peut-être ça sera un démarchage qui sera ciblé par rapport à ça, ou ça pourrait être un chantage aussi. Si ce qu'on n'a pas dit, ce que j'ai pas dit comme autre arnaque que l'on retrouve quand même aussi de plus en plus, c'est l'arnaque au faux site en fait de traitement en fait de Google, tous les autres, enfin j'arrive pas à trouver d'autres noms là sur le moment, mais Yahoo et autres.
Faux navigateurs en fait, c'est ça.
Alors c'est pas des faux navigateurs, c'est des, en fait on va vous dire votre on va vous dire que votre ordinateur est bloqué, on va vous dire que vous ne pouvez plus accéder et qu'il faut en fait des faux supports techniques. Voilà.
Ah oui,
en fait,
d'accord.
Et on va en vous solliciter.
Vous dites votre compte Google est bloqué.
On voit quelque chose apparaître sur l'ordinateur. Vous ne pouvez plus rien faire. Téléphonez à ce numéro-là et vous allez appeler et on va vous vendre, une réparation qui n'a pas lieu d'être et surtout qui va vous extorquer de l'argent. Ça aussi, ça se développe.
Oui, parce qu'en général, c'est quand même pour se faire extorquer de l'argent. Enfin, là, il y a une arnaque qui a l'air en fait, j'ai du mal à comprendre en quoi consiste l'arnaque, qui a l'air assez en vogue ces derniers temps. C'est les fausses convocations de police.
Ah oui. Ah
on
oui.
en a reçu beaucoup là parce que.
On en reçoit tous, hein, je
c'est
pense.
C'est ça. Soi-disant, on est pédophile. Enfin, en général, c'est ce genre de. Et alors, quel est le but là ? C'est pas forcément de nous prendre de l'argent.
Non, je pense que c'est les données personnelles ou de mettre un virus sur votre ordinateur, de prendre la main sur votre ordinateur. Alors là, j'avoue que moi, je suis juriste, pas technicienne, donc j'ai du mal à évaluer exactement ce qu'il est possible de faire. Mais c'est vrai que je pense que c'est au niveau des virus qu'on peut avoir. Vous ouvrez en fait un mail de ce type-là et vous risquez effectivement de voir des petits logiciels malveillants s'installer sur votre ordinateur. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire après, techniquement? Est-ce que c'est par là? Parce que quand on parlait tout à l'heure des fraudes à la carte bancaire qui se développent de plus en plus, moi j'ai finalement des fois du mal à voir quand une personne a toujours sa carte bancaire avec lui, comment, et qui dit mais non, j'ai pas donné mes codes, j'ai rien donné, et de voir que des opérations dont il n'est pas à l'origine ont été faits sur son compte bancaire. Donc, est-ce que tous ces logiciels, vous ouvrez un de ces comptes-là, qu'est-ce qu'ils ont accès à vos données personnelles sur votre compte, sur un site sur lequel vous êtes allé acheter quelque chose, vous avez utilisé votre carte bancaire et hop, ils peuvent pirater un site, récupérer tous ces éléments. On a tous reçu, des mails de grands groupes, Orange, Bouygues Télécom, SFR ou autre, selon celui où vous êtes, en expliquant que des données personnelles ont été volées, donc de faire attention, de changer les mots de passe et autres. Donc il y a des moyens techniques maintenant impressionnants, donc à notre niveau c'est très difficile de pouvoir savoir exactement ce qui est fait, mais en tout cas il faut être très très vigilant à ce que l'on fait.
Ouais, c'est ça, parfois on s'est fait voler de l'argent sur son compte et on ne sait même pas exactement comment les voleurs s'y sont.
La plupart du temps, les gens qui viennent nous voir en permanence ne savent pas comment c'est arrivé. Ils me disent, mais non, moi, ma carte, elle est dans mon portefeuille, il est dans mon sac ou dans ma poche, je ne l'ai jamais perdu, je ne l'ai jamais donné à personne.
Donc oui, c'est plutôt, ça s'est passé sur Internet, quoi. Vraisemblablement.
Sur Internet, peut être... Effectivement, on fait beaucoup d'achats maintenant pour Internet. Internet, c'est aussi la facilité qui est faite. Alors, on utilise nos cartes bancaires, donc maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est suffisamment sécurisé ou pas.
Bon. D'accord, donc là on a fait un peu le tour de ce qui peut nous arriver. Est-ce qu'il y a un public, est-ce qu'il y a un profil quand même, les gens qui se font avoir, est-ce que...
Je dirais que là c'est pas forcément ciblé parce que, autant le démarchage des fois... Alors, réussir à comprendre, parce que des fois on va appeler un public plutôt âgé, notamment pour des assurances, dépendances, assurances, d'autres, quand on avait des vendeurs qui vous appelaient pour venir chercher un cadeau et puis vous retrouvez dans le magasin et vous retrouvez à acheter un lit, on savait qu'ils ciblaient des publics spécifiques qui étaient notamment les personnes âgées ou les jeunes couples qui s'installent. Là, je pense que c'est pas forcément ciblé, sauf que effectivement les données personnelles qui vont être récupérées par ce type de stratagème vont peut-être permettre de cibler justement ces démarchages souvent malveillants.
Mmh. Oui, de toute façon, ils jouent sur la masse, les cyber-voleurs. D'accord, donc très bien. Alors, quels sont les pièges à éviter quand on est sur Internet, dans sa pratique courante, et les bons réflexes à l'inverse, voilà.
Alors, je dirais que si on reste sur la carte bancaire, puisque c'est souvent, le but est souvent de vous extorquer de l'argent, ça va être d'aller régulièrement sur son compte bancaire, de surveiller toutes les opérations et de bien regarder si nous sommes à l'origine des opérations. C'est ça qui, je pense, est déjà la base, puisque si vous constatez des prélèvements, des paiements dont vous n'êtes pas à l'origine, vous allez pouvoir réagir. C'est-à-dire que là, il va falloir prévenir votre banque. Vous avez, je crois que c'est 13 mois, donc ça paraît une très grande, un délai assez grand, mais c'est bien de le faire très régulièrement pour faciliter un petit peu les retours. Possibilité de signaler à votre banque toute opération dont vous ne seriez pas à l'origine, et logiquement, la banque a l'obligation de vous rembourser.
Oui.
Alors, ça paraît simple,
ça
n'est pas toujours. Mais c'est en fait pour refuser de vous rembourser, ça va être à la banque de prouver que vous avez fait cette opération. Donc vous n'allez pas dire, attendez, ce n'est pas moi, je peux vous prouver pas. Pour prouver par A plus B que je n'ai pas fait cette opération, c'est très difficile de prouver quelque chose que l'on n'a pas fait. Par contre, la banque, voilà, si par exemple c'est des achats habituels que vous faites sur le même site ou autre, va pouvoir mettre en doute là-dessus. Mais sinon, logiquement, vous faites, vous déclarez cette fraude et normalement la banque doit vous rembourser.
La charge de la preuve est à la banque.
La charge de la preuve est à la banque, exactement.
Oui. Sauf que c'est vrai que plus on prévient tôt, déjà, plus ça montre qu'on est de bonne foi, je suppose.
Tout à fait.
Et puis plus ça permet de se faire moins voler d'argent aussi.
Exactement, parce que après, si c'est la carte bancaire qui a servi, on peut faire opposition sur la carte bancaire. Donc ça va bloquer toutes les opérations qui pourront aller après. Donc moi, honnêtement, un des meilleurs conseils, effectivement, c'est pas d'attendre les 13 mois, de se dire, bon, là, je le fais une fois par an, je regarde mon compte et je. Ah, ça, c'est pas moi. D'une part, vous allez avoir oublié ce que vous avez fait comme achat ou pas. Le nom des. Des sites sur lesquels vous avez acheté ou des achats en magasin, ça n'apparaît pas toujours très concrètement sur votre compte bancaire. Donc, c'est bien de le faire régulièrement. Et effectivement, je pense qu'au niveau de la banque, ça fait aussi preuve de bonne foi. Après, on a quand même de plus en plus de banques qui refusent le remboursement. Sur quelle base ? En fait, il y a des systèmes de sécurité. Alors, on avait le 3D Secure à un moment donné.
C'était quoi ? C'était un numéro ?
Alors, 3D Secure, c'est quand vous faisiez un achat, par exemple, sur un site, le site envoyait en fait un message à la banque. La banque vous envoyait un SMS et vous disait, voilà, vous venez de faire un achat sur tel site, d'un montant de temps, voici le code pour valider votre achat. Sauf que nous, ce qu'on a pu voir avec ce système de 3D Secure, où il y a peut-être d'autres noms selon les banques, c'est que soit les gens étaient au téléphone avec, je vous fais cet achat-là, vous allez recevoir un SMS, vous me donnez ça, puis comme ça, je vous valide. Alors les gens ne faisaient pas trop gaffe, ils relisaient le SMS, ils donnent le code, hop, ça validait l'achat. Donc la banque dit, mais attendez, vous avez eu ce code, vous avez pu lire tranquillement que c'était cet achat-là, vous avez donné le code, tant pis pour vous. Vous avez validé cet achat.
Ah, les gens validaient un code sans
mais la plupart du temps,
à quel âge. C'est des gens qui font beaucoup d'achats alors quand même.
Nombre de fois où j'ai eu des personnes, là par contre, effectivement, souvent des personnes âgées, en fait, qui, là c'était plus un démarchage téléphonique, mais ça va un effet sur le compte, et la banque leur disait, vous avez validé avec le 3D Secure, donc on ne vous rembourse pas. Et finalement, quand même, on est un peu revenu là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que le 3D Secure ou les autres systèmes de sécurité n'étaient pas suffisamment importants, puisqu'il y a eu beaucoup de fraudes à ce niveau-là, et on est passé à des... Alors, je crois que sur certains noms, ça s'appelle le SecuriPass, mais des codes de sécurité renforcés. Et là, on va vous demander, pour chaque opération que vous allez faire, d'aller sur votre compte ou d'aller sur votre application et de valider avec un code qui vous est propre cet achat-là. Donc, on a augmenté le degré de sécurité.
Ça oblige un peu plus à regarder ce qu'on valide, en fait. C'est ça,
voilà,
finalement.
C'est ça. Donc là aussi, je peux conseiller quelque chose, c'est que si, effectivement, le 3D Secure existe encore sur certains sites, c'est vraiment... de réfléchir. On reçoit un message, c'est pas parce que quelqu'un vous demande le code ou que, regardez bien sur quel site, est-ce que le nom correspond, est-ce que c'est bien le montant de votre achat ou pas.
Ouais, quelle est la
somme,
voilà.
Parce qu'on s'est retrouvé avec ce genre de fraude, mais très courante.
C'est ça. Surtout quand on achète très souvent, en fait. C'est-à-dire que si on fait un achat de temps en temps, il n'y aura pas concomitance entre
le
mail et
le effectivement,
voir,
plus vous allez acheter sur Internet, plus vous allez communiquer vos coordonnées bancaires sur des sites d'achat. Alors, tout dépend sur quel site vous allez aussi. On va avoir ce qu'on appelle les sites qui ont pignon sur web et d'autres, comme pour une pignon sur rue, et donc qui vont être plus sécurisés. Vous allez à un site sécurisé, vous allez voir le petit cadenas au niveau de l'adresse.
HTTPS.
Voilà. Alors vous avez le cadenas pour le paiement, et puis vous avez le site sécurisé. Effectivement, on va regarder l'adresse du site et on va avoir HTTPS au lieu de HTTP. Ça, c'est des sécurités.
Ça, c'est de la base.
Voilà. Faut bien regarder sur les sites sur lesquels on va, parce que le fait de pas connaître, faut regarder. Vous pouvez aller voir. Alors ça demande un petit peu de temps, ça demande de se pencher dessus, mais on peut voir les conditions générale des sites aussi pour voir déjà où se trouve le site. Est-ce qu'il va se trouver en France? Est-ce qu'il se trouve à l'étranger? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent jouer. Et plus vous allez faire circuler vos informations bancaires, plus vous avez un risque à un moment donné d'être piraté.
Vaut mieux un site français parce que c'est plus facile de se retourner contre lui.
Ça va être déjà plus facile. Effectivement, on va avoir les coordonnées. Alors après, ce qui se peut passer, quand je parlais des sites ayant pignon sur web, on peut passer la Fnac, Cdiscount, Amazon, pour en citer plusieurs. Il faut savoir aussi qu'il y a des systèmes. Donc c'est effectivement ces vendeurs-là. On se dit, ce sont des gros sites, on a l'habitude, il y a des sécurités. Mais ils ont aussi ce qu'on appelle un marketplace, où c'est-à-dire qu'ils vont...
Une place de marché.
Une place de marché, pour parler français, effectivement. Où des vendeurs extérieurs vont venir vendre sur ce site-là. Et les trois marchands, là, par exemple, que je vous ai cités, mais il y en a plein d'autres, ne servent que de service de mise en relation. Donc, si vous avez un souci après, j'avais donné l'exemple une fois de quelqu'un qui avait acheté un téléphone portable sur un de ces sites. Et quand le téléphone portable est arrivé, le téléphone, il ne marchait pas parce qu'il n'était pas adapté au marché européen. Donc, voilà. Et finalement, c'était un marchand chinois. On ne peut pas se retourner. Il y a plein de choses, en fait.
C'est pas parce qu'on l'a trouvé sur Amazon qu'on peut se retourner contre Amazon.
Exactement. C'est ça qui est important.
C'est ça. Et les systèmes d'enregistrement, les systèmes de style PayPal où on est déjà enregistré, est-ce que c'est assez fiable? Est-ce que c'est recommandé ou pas?
PayPal, oui, je pense que c'est assez fiable, mais il faut faire attention puisqu'il y a des arnaques à PayPal aussi. Moi, dernièrement, j'ai une personne qui est venue me voir. Alors, c'était pas elle. Elle achetait pas, elle vendait. Mais quelqu'un voulait lui acheter quelque chose et donc on lui a dit de passer par PayPal. C'était pas le vrai compte PayPal. Et c'est cette personne là dont je parlais tout à l'heure qui, malheureusement, s'est retrouvée, je crois, avec une somme de 8000 euros prélevée sur son compte. Parce qu'elle a créé, elle a donné des informations en créant cet espace PayPal, justement, dans l'idée de sécuriser la vente, cette fois-ci, parce qu'elle n'achetait pas. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, PayPal, en soi, oui, ça vous permet d'avoir un stade de sécurité pour payer un autre organisme, puisque, si vous avez un souci, vous pouvez retourner par PayPal, qui ne paiera, en fait, que s'il n'y a pas de problème. Donc, oui, ça peut être une sécurité aussi. Mais il faut faire attention aux faux sites aussi PayPal, par exemple.
D'ailleurs, autre recommandation toute simple, c'est de regarder même quand on reçoit un mail avec un site dedans, soi-disant de la CPAM ou de la CAF.
Ce qu'on appelle du hameçonnage, effectivement.
Voilà. Quand on clique sur ce site, en fait, on se rend pas forcément compte que c'est un faux site.
C'est ça. Parce que autant avant, on voyait ce genre de message en disant on les reconnaissait tout de suite parce que c'était bourré de fautes. Donc ça, malheureusement, il y a eu une amélioration. Ils ne sont pas bêtes non plus. À un moment donné, ils se sont perfectionnés. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Quand vous avez ce genre de site, alors déjà de se dire que ça soit votre banque, la CPM, la CAF, personne ne vous demandera vos coordonnées bancaires. Même une banque ne vous le demandera jamais par message. Donc ce que vous pouvez faire, c'est appeler, si vous avez un doute quand même de la véracité du message que vous avez reçu, vous pouvez appeler l'organisme. Alors évidemment, ne prenez pas le numéro qui figure dans le mail, allez chercher vous-même ou sur vos papiers ou sur internet les numéros de téléphone de votre banque, de votre organisme de sécurité sociale ou autre et contactez-les. Là, vous aurez cette sécurité. Ce qu'on peut faire aussi sans cliquer sur le lien, c'est d'aller mettre la souris en fait sur l'adresse et on va voir vers quel site, sans cliquer dessus, vers quel site ça va ramener. Des fois, ça permet de voir que l'adresse ne correspond pas non plus au site concerné.
Il faut bien regarder dans la barre de navigation quelle est l'adresse.
Exactement. Ouais. Après, il faut toujours avoir un doute. Mais en tout cas, c'est clair et net, ne jamais donner, on vous demandera jamais vos codes d'accès, jamais vos coordonnées bancaires, ni quoi que ce soit.
Les mots de passe, jamais. Par mail, jamais.
Jamais.
Et si on va sur un site internet, autant taper soi-même dans le navigateur CPAM pour arriver sur le bon
site.
C'est
ça, exactement. Voilà. Ne pas reprendre les numéros qui vous sont donnés à ce niveau-là.
Ça, c'est une règle de base qui permet déjà... Est-ce qu'il y a d'autres réflexes de sécurité à avoir?
Je pense qu'il faut... Alors déjà, si ça vous arrive... Aussi, là, pour nous, par exemple, pour une association de consommateurs ou pour la suite qui peut être donnée, c'est toujours garder des preuves. Alors, peut-être, si vous ne savez pas faire une capture d'écran, prenez votre appareil photo, prenez en photo, l'écran de votre ordinateur. Si vous constatez, je pensais aux faux sites techniques, là, blocage et autres, quand vous constatez, effectivement, que vous avez été prélevé ou autre, gardez le maximum de preuves, les échanges que vous avez pu avoir, ça servira au mieux pour traiter le dossier. Il y a plein aussi de site ou d'adresse où vous pouvez signaler ce genre de choses. Vous pouvez aller sur le site de la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, où souvent vous allez trouver toutes ces adresses-là, au niveau notamment aussi des listes d'opposition pour éviter d'être démarché par téléphone, par SMS, par MMS. Vous voulez arrêter peut-être aussi de recevoir des SMS, vous pouvez envoyer au numéro qui vous envoie ces SMS un stop, tout simplement. Si vous voulez savoir qui vous l'envoie et pouvoir contacter, parce que c'est pas toujours frauduleux, mais c'est aussi des fois commercial et ça peut être limite harcèlement des fois, donc vous pouvez même vous marquer contact, vous renvoyez le mot contact pour avoir les coordonnées. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent vous permettre de limiter, d'abord d'informer les structures qui vont pouvoir faire des enquêtes par rapport à ça. Donc je pense au spam, je pense au hameçonnage, de renvoyer ces documents ou de signaler. Après, qu'est-ce qu'il peut avoir autrement? Vous avez des sites aussi, vous pouvez signaler quand c'est des infractions bancaires, vous avez Perceval, vous avez Pharos, donc tout ça vous allez pouvoir les retrouver sur internet. Peut-être que Radio Évasion pourra vous les mettre en ligne, les codes d'accès. Voilà, il y a plein de possibilités pour à la fois signaler ces dysfonctionnements et permettre peut-être pas pour vous, mais pour d'autres, plus ça sera signalé, plus les enquêtes pourront être faites et plus on pourra bloquer ces spams, ces SMS, tout ce système en fait de hameçonnage.
Bon, alors une fois qu'on s'est fait voler, mettons ces coordonnées, bancaires déjà, on en a parlé un peu, donc la banque est obligé de rembourser, c'est ça, mais il y a quand même des choses à savoir.
Voilà, le principe qu'on a bien dit, un remboursement. Si vous déclarez dans les 13 mois, un remboursement, sauf à ce que la banque estime c'est vous qui avez fait cet achat. Donc ça peut être avec le 3D Secure si vous avez donné le code. Donc là, dernièrement, je sais que justement, c'était pas le niveau sécurisé, donc je parle du SecuriPass, il y a d'autres noms hein, selon les banques. J'ai réussi, même si dans un premier temps, la banque se cachait derrière ce 3D Secure, en faisant un courrier, en expliquant quand même qu'on a augmenté les degrés de sécurité puisqu'il y avait le SecuriPass avait été quand même bien mal utilisé. Donc voilà, on arrive à faire des remboursements, mais des fois, il faut se battre. Faut pas s'arrêter à la première démarche auprès de la banque qui vous dit « Bah non, désolé, c'est vous qui avez fait cet achat, vous avez validé cet achat, on peut rien faire. » Donc des fois, il faut vraiment aller plus loin et continuer. Sinon, ça va être de faire opposition à la carte, hein, parce que si c'est votre carte, tout simplement, votre code qui a été utilisé, alors soit on est sur le code pouvoir quand vous êtes dans une banque, quand vous allez tirer de l'argent, vous avez votre mot de passe. Voilà, donc ça, il va falloir effectivement refaire la carte. On va faire simplement opposition et on va vous changer la carte pour éviter que ça puisse être réutilisé. Parce que sur Internet, vous pouvez simplement utiliser le numéro de la carte, la date de validité et le code que vous allez retrouver à l'arrière, sans avoir besoin d'utiliser votre mot de passe. La plupart du temps, c'est quand même ça qui est utilisé, et c'est souvent ça, je pense, qui est récupéré quand on a des vols de données personnelles ou des vols de données bancaires, notamment sur un site qui peut se faire pirater et sur lequel vous avez peut-être enregistré vos coordonnées.
Donc vaut mieux éviter d'enregistrer ses cartes bancaires, en fait, c'est ça.
Alors c'est sûr que ça facilite les choses si vous faites régulièrement des achats sur un site, mais aussi en laissant vos coordonnées bancaires enregistrées sur ce site-là. Vous prenez ce risque que le site se fasse lui-même pirater et que vos coordonnées bancaires circulent.
Si on s'est fait voler, par exemple, par prélèvement directement sur son compte en banque, là, sans que ça passe par la carte bancaire, bon, là, j'imagine que la banque ne peut que rembourser.
Oui.
Mais pour autant, il faut savoir que c'est assez long, hein, le remboursement.
Alors, ça peut être long. On va vous demander peut-être aussi de porter plainte.
Ouais.
Alors, c'est pas une obligation, mais souvent, les banques vont vous demander de porter plainte. Donc, il faut prendre ce temps-là d'aller le faire. Là, c'était le site Perceval aussi, je crois, donc je vous parlais tout à l'heure, où vous pouvez faire, je crois, un dépôt de pré-plainte et pour pouvoir justement limiter ce genre de soucis. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps parce qu'après, il va falloir remplir un dossier de fraude à la banque. Le temps qu'ils étudient votre situation. Si dans un premier temps ils ont des doutes, ça va repasser en deuxième avec un deuxième service et des fois il va falloir se battre. Mais oui, ça peut prendre du temps. Donc quand c'est des sommes importantes et qui peuvent vous mettre en difficulté et peuvent générer peut-être des agios, des frais de mouvement irréguliers, il faudra voir avec la banque après effectivement de négocier que ces frais-là vous soient remboursés.
Et s'il y a eu vol de d'autres coordonnées, mais qu'il y a une sorte d'usurpation d'identité, si on veut, Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors là, c'est compliqué, hein. C'est très difficile d'une situation à l'autre, ça va être différente. Ben, faut déjà porter plainte, ça va être la base. Faut voir si cette plainte va aboutir, parce que souvent c'est une plainte contre X. Hein. Alors est-ce que il y aura suffisamment d'éléments pour retrouver quelqu'un? Et ça, c'est vrai qu'après, ben, il va falloir recouper un petit peu, parce que vous allez vous retrouver à devoir payer, vous allez voir plein d'achats et autres. Ça, c'est franchement, c'est une situation. Il va falloir être patient, essayer de trouver. Trouver tous les éléments de preuve que ce n'est pas vous. Et ça, c'est très compliqué parce que l'usurpation d'identité, ça peut aller loin. Mmh. C'est difficile de résumer ce qu'il est possible de faire. Là, il faudrait voir le dossier pour essayer de comprendre. Mais ça va être du pénal. Hein. C'est pas du contractuel. Il y aura du contractuel pour les achats qui peuvent être faits en votre nom. Mais malheureusement, l'usurpation d'identité, c'est souvent au niveau pénal que ça peut se jouer.
Oui, parce qu'on ne sait pas l'usurpateur ce qu'il peut faire. Hein.
Exactement.
Ça peut même aller très loin, bien sûr.
Tout à fait.
Bon, donc c'est pareil, se prémunir, changer ses mots de passe régulièrement. Enfin, il y a aussi de la
c'est
l'hygiène
ça. Je
de base.
Je pense qu'en fait, quand vous êtes avec un ordinateur, c'est-à-dire que vous avez des logiciels, faire toutes les mises à jour, parce que les mises à jour tiennent compte en fait de toutes les fraudes qui peuvent être faites. Donc, faut les faire régulièrement. Faut essayer d'avoir un antivirus à jour, de passer de temps en temps quand même cet antivirus pour vérifier qu'il n'y a rien qui s'est installé. Ne pas ouvrir les mails, même si c'est des personnes que vous connaissez mais qui vous paraissent un peu bizarres, ou les types de mails dont on le reçoit. Alors souvent, si vous regardez ces mails-là, comment dire, effectivement, une plainte de la police, venez vous présenter, voilà. Si on regarde, ce sont souvent des mails qui sont envoyés en pleine nuit, en fait, ou très très tôt le matin. Donc déjà, enlever tous ces mails-là, faire le point et faire attention avant d'ouvrir un mail. Je pense qu'il y a plein de petites astuces comme ça, précautions. Alors, c'est difficile, hein, on ne pourra jamais tout faire, mais peut-être qu'en faisant ces petites choses-là, quand même, on arrivera à limiter, on va dire. Pas empêcher, limiter déjà les choses.
Une petite routine d'hygiène numérique.
C'est ça.
Merci Valérie, la CLCV qui reviendra certainement la saison prochaine. Mais en attendant, on trouvera toutes les informations utiles sur le site de Radio Évasion. À bientôt.
Au revoir.